Donc hier soir, je me suis réveillé vers 4 heures du matin et j'avais soif. J'avais soif dans la nuit. Je ne sais pas si ça vous arrive. Oh, tu fais un mauvais rêve. Soif dans la nuit. Mais le problème, tu es trop fatigué de te lever et prendre quelque chose à boire. J'ai dit, bon, mais non, j'avais oublié d'apporter un petit verre d'eau à côté de mon lit. Non, là, et après, je vais essayer de dormir encore, de dormir avec ma soif. Et j'étais libéré quand même vers 8 heures parce que ma femme est venue avec une tasse de thé. Et tu vois, et après j'ai mis une deuxième oreiller et j'étais intronisé sur mon lit avec ma tasse de thé comme la reine d'Angleterre avec Paddington avec mon sandwich de marmelade. Mais il faut voir le YouTube pour comprendre ça. Et donc j'étais libéré, donc c'était bien. Et donc j'ai une question à vous poser ce matin. C'est tout simplement, est-ce que vous avez soif? Est-ce que vous avez soif? Hein? Ça dépend de quoi. Et est-ce que vous avez soif? Et bien sûr, le corps humain, hein, on a soif. Bon, on a soif dans la nuit. Quelquefois, moi, j'ai soif quand je cours ou quand on fait un effort. C'est parce que vous faites le jardinage sous le soleil. Donc, j'ai soif. Une fois, je faisais des marathons avant. Hein, et vers 35 km, tu as un peu soif aussi. Hein. Heureusement, ils mettent sur le parcours des petits moments où on peut boire. Et donc, ça, c'est bien. Et donc, le corps humain, il y a une soif biologique. D'accord? Il y a une soif naturelle. Et le corps peut vivre combien de temps sans eau?
3 jours,
normalement. Hein. On peut vivre 40 jours. D'accord. Ça va comme ça? C'est bien. Ça va. Donc, on est prêt pour le vol. Mettez vos ceintures. Ça va partir. Et donc, le corps humain peut vivre 3 jours, 4 jours, 5 jours, peut-être un peu plus, hein, si vraiment on est là. Mais c'est mauvais de ne pas boire aussi. Hein. Il y a les gens, ils ont des infections et toutes sortes de choses parce qu'ils ne boivent pas assez. Et on dit, il faut toujours boire. Et donc, ça, c'est pour le corps humain. Hein. C'est le corps humain, il faut boire. Mais, bon, ça nous intéresse un peu, mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est une soif spirituelle. C'est d'avoir une soif spirituelle. Et qu'on veuille ou non, je pense tout le monde est d'accord que l'homme est plus que juste la chair. Il est plus que juste une biologie. Nous avons des soifs de l'âme. Et ça nous pousse à vouloir satisfaire notre soif. Et vous allez être propulsé par votre soif. La direction de votre vie va être décidée par votre soif. Et il y a les gens qui ont soif de reconnaissance, il y a les gens qui ont soif de pouvoir, il y a les gens qui ont soif de beaucoup de soif dans notre vie. Notre âme a soif, votre âme a soif. Et on peut dire votre essence, votre être, mais moi j'ai dit votre âme a soif. Et il y a une soif existentielle. Et donc, est-ce que vous avez soif? Est-ce que vous avez soif? Et vous avez soif de quoi? Et donc là, il y a un chant magnifique. J'ai soif de ta présence, divin chef de mon âme, dans ma faiblesse immense, que ferai-je sans toi? Chaque, etc. Hein? J'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Et donc j'ai soif. Est-ce que c'est vrai? J'ai soif. Quand je me réveille à 4 heures du matin, c'est vrai, j'ai soif, mais j'ai aussi soif de la présence de Dieu dans mes nuits. J'ai soif de la présence de Dieu dans ma nuit difficile, dans la nuit de ce monde, dans la nuit de mon existence. Ah ouais. Dans la nuit de mon existence, j'ai soif. Et donc, j'ai soif de ta présence. Ça, c'est une de mes soifs. J'ai soif de la présence de Jésus dans ma vie. Mais j'ai aussi une autre soif. J'ai soif d'avoir un sens à ma vie. J'ai horreur d'être inutile. C'est terrible. Je veux compter. Et je pense que quand vous êtes chrétien, quand vous avez Jésus avec vous, vous avez envie de faire quelque chose pour lui. Et ce sentiment d'être, c'est pas de ne pas avoir un sens. C'est terrible. Et beaucoup de gens courent après le bonheur. Souvent, les gens disent, il faut avoir le bonheur, c'est la chose la plus importante dans la vie. Il faut courir après le bonheur. Mais il ne faut pas courir après le bonheur. Moi, je veux vous dire, si vous courez après le bonheur, vous n'allez pas le trouver. Le bonheur. Mais il faut courir après, ou il faut essayer de découvrir son sens, le sens de ta vie. Et en découvrant le sens de ta vie, un produit de ça, c'est le bonheur. C'est aussi quelquefois les luttes et la souffrance, mais bon, c'est de trouver un sens, ça ouvre la voie aussi pour trouver le bonheur. Et pour moi, le sens de ma vie, je peux dire ça d'une autre manière, c'est d'avoir une mission. Qu'est-ce que c'est ma mission? Et la mission, c'est aussi une soif. C'est pas une obligation. C'est pas une obligation. C'est une mission. C'est une soif. Je dois accomplir quelque chose. C'est en moi. Et c'est une grâce, comme on a parlé de la grâce aujourd'hui. Et donc, je réponds pour moi-même. Hein, vous pouvez répondre pour vous. Mais moi, j'ai deux grandes soifs. J'ai soif de la présence de Dieu. Et j'ai soif de la mission. Et peut-être je peux juste lire un premier verset en Actes 13, 36. Et j'aime bien cette petite phrase. C'est Paul, c'est Paul, je pense, qui parle de la résurrection. Et il cite le roi David. Et en verset 36, il dit: Or David, après avoir, dans sa génération, servi le dessein de Dieu. Et j'ai dit, oh, mais c'est ça. J'aime bien cette phrase. Seigneur, j'aimerais bien servir le dessein de Dieu dans ma génération. Ça résume dans une phrase toute ma soif. Et j'aime bien ça parce que le dessein de Dieu n'est pas figé. Le dessein de Dieu n'est pas figé au 18e siècle, c'est pas figé avec Luther et la Réforme, c'est pas figé avec Saint-Augustin, c'est pas figé avec quelqu'un comme moi qui a 64 ans. Moi, j'ai mon identité et je veux servir le dessein de Dieu dans ma génération. J'arrive à la fin de ma génération. Mais je pense que chaque génération doit trouver leur manière d'incarner le dessein de Dieu. Et je pense que chaque mission, chaque église doit trouver la manière d'incarner le dessein de Dieu dans sa génération. Et bien sûr, il y a plusieurs générations. C'est pour ça que c'est toute une aventure de gérer une église ou une mission, parce qu'il y a souvent plusieurs générations. Mais on est dans notre génération. On est en 2022. Et les paradigmes changent. Je sais que Dieu, Jésus est le même aujourd'hui, hier et pour toujours. Mais Jésus s'adapte à la culture. Et Jésus s'adapte à la génération. Et c'est toujours assez passionnant ou assez traumatisant de trouver entre maintenir la tradition et aussi détruire la tradition pour aller de l'avant avec Jésus. Et nous, on est souvent dans ces moments de tension. Et je pense que le monde vit un grand moment de tension en ce moment. Je pense que nos églises vivent un moment de tension. Mais Dieu a la réponse. Et donc voilà, on a soif. Moi, j'ai soif de la présence de Dieu et j'ai soif de faire sa mission. Et donc, quand vous avez soif, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut boire. Hein? Et là, moi, quand je bois, je dois avouer, hier, j'ai bu un whisky. Hein? Je sais pas, j'ai vu un monkey shoulder. C'est l'épaule de singe, ça s'appelle. Et c'était bon. Mais j'étais tenté de boire deux, mais je dis, je prêche demain, peut-être, il ne faut pas que j'ai mal à la tête. Et donc, quand je bois, j'ouvre ma bouche et j'avale. Et c'est une vraie expérience. Et quand tu bois un bon malt, ça reste dans la gorge. Et même avant, c'est bon. Je vous donne envie, hein, pardon. Et c'est une vraie expérience. Après, il y a un après-goût qui m'en... c'est super. Et donc, votre âme est comme la bouche de votre spiritualité. C'est que c'est un peu simpliste ce que je dis, mais il faut imaginer que là, que vous avez une bouche intérieure, hein, et que votre âme, là, j'ai besoin de boire. Et tu dois avaler aussi. Il y a un processus de recevoir. Et c'est une vraie expérience. C'est pas juste quand le prêtre, il prêche l'âme. Mais et même quand on loue et tout ça, on boit avec l'âme. Et après, c'est bon. Je sens. Et on garde quelque chose. Et donc, ton âme a besoin de boire. Et ton âme a une bouche et il faut avaler. Il faut cultiver l'habitude d'avaler. Mais qu'est-ce que tu avales ? Et ça, c'est le choix de l'homme. On peut avaler un tas de trucs. On peut passer notre... C'est le monde. Le monde aujourd'hui vous donne un tas de choses à avaler avec votre âme. Vous pouvez avaler tout. Moi je suis un adepte de TikTok maintenant. Et je vois ce que TikTok me donne à avaler. Et quelquefois, je dois vraiment fermer la bouche de mon âme. Je ne vais pas boire ça. Je ne vais pas boire ça. Et même les actualités, quelquefois, ça nous bombarde avec des trucs à avaler. Et il y a même une phrase, hein, il faut pas, en français, on dit, il ne faut pas tout avaler. Et moi, je vais, il ne faut pas tout avaler. Il ne faut pas tout avaler dans ce monde. Il faut avoir un peu de discernement, de dire, mais je ne vais pas bourrer mon âme de ça. C'est vraiment... Et il ne faut pas avaler certaines choses. Ça nous donne aussi une addiction après. Et ça ne nous satisfait pas. Ça ne nous satisfait pas. Parce que c'est ça le piège de l'ennemi, c'est de nous faire boire avec notre être intérieur. Et après de nous accrocher. Et c'est triste. Hein? L'autre jour, Sylvain m'a parlé de ça. Hein? Tu sais, quand on est à Tumri, là, on a... Ça fait longtemps qu'on est à Tumri, donc on a vu les petits-enfants, les enfants, les amis de nos enfants grandir, des enfants gentils, innocents. Et ils sont grands maintenant, certains de ces enfants, on les voit à Tumri. Il y avait un jeune homme l'autre jour, je sais, il était copain de Marc, mais il était complètement ivre dans la rue, titubé. On voit qu'il y a un problème avec Poisson. Il dit, mais Seigneur, je veux l'aider, mais comment est-ce qu'on peut aider? C'est compliqué, hein, quelquefois, mais ça m'a attristé. Je dis, mais quelqu'un, il a eu soif dans sa vie, peut-être il a eu une blessure dans sa vie, et pour adoucir la douleur de la vie, il s'est tourné vers... Son âme a littéralement bu, mais son corps aussi, mais une addiction se crée, et ça tue quelqu'un. Donc il faut vraiment ne pas avaler tout, parce que ça peut nous détruire. Donc voilà, je dois arriver quand même à l'essentiel. Donc vous savez quel verset je vais aller vous donner. Jean 7, c'était la fête de Sukkot, c'est la fête des tabernacles, quand Jésus, il a dit, voilà, et ses frères, tu vas pas monter à la fête. Et il dit, ses frères ne croyaient pas en lui. C'est triste, ça. Et quand j'ai lu ça dans le texte, j'ai dit, oh, mais il y a des moments où nos familles ne croient pas dans, à notre foi de la même manière. Et c'est que ça crée des tensions quelquefois. Mais j'étais encouragé parce que quand tu lis dans le livre d'Actes, bon, peut-être je vais vous donner quand même les Écritures. Hein, il dit, si vous voyez chapitre 7 et verset 5, en effet, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Oh, c'est quand même dur, hein, et surtout à l'époque, dans sa famille et tout ça. Mais quand vous lisez en Actes, et c'est quelque chose que je n'avais pas remarqué avant, mais j'ai juste remarqué ça l'autre jour, c'est pour ça que je le partage. C'est, vous voyez, Actes 1, 14, c'est quand ils sont dans l'attente pour le Saint-Esprit. Et verset 14, il dit, Actes 1, 14, « Tous, d'un commun accord, persévérez dans la prière. » Oh, ça c'est positif. « Avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. » Waouh! Et donc, quelque chose a dû avoir lieu. Donc, ça m'a encouragé, parce que même si vous avez des difficultés avec le rejet de votre foi, quelquefois, dans votre famille, et ça, c'est dur avec vos proches et tout ça, et c'est dur à avaler, mais il faut persévérer. Parce que là, j'ai vu, mais quelque chose a dû se passer, et tout d'un coup, ils étaient là, tous ensemble, en train de prier avec les frères. Mais bon, ce n'est pas mon message, c'est juste pour encourager à prier, ne pas se décourager quand les gens ne partagent pas toujours nos valeurs. Et alors là, Jésus, c'est la fête de Sukkot, tabernacle. Il puisait de l'eau dans le puits de Siloam, Siloé, qui était envoyé. Et après, il portait l'eau dans un vase d'or et il déversait ça devant le temple. Hein, c'était une de leurs traditions, une grande procession de personnes. Et donc, le dernier jour, on devait encore verser deux fois plus d'eau en lisant les Écritures aussi de l'Ancien Testament. Et c'est là où Jésus, quand même, en secret, il arrive à cette grande fête. Et c'est quand même difficile pour lui parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent carrément le tuer. Bon là, c'est pour ça qu'il est allé en secret. Les gens, ils voulaient carrément le tuer. Mais il y a d'autres qui, ah, peut-être il est le Messie et tout ça. Et donc, avec leur eau, avec la fête de la moisson, la Sukkot, ils arrivent avec leur eau, avec leur tradition. Et au milieu de tout ça, Jésus se lève, verset 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Sukkot, faites la moisson. Jésus, debout, s'écria. Et là, ça m'a frappé aussi. Parce que Jésus, normalement, il est assez discret. Il parle doucement. Mais tout d'un coup, il crie. Et en anglais, on traduit ça avec une voix forte. Il s'écria. Donc, j'ai dit, voilà, c'est qu'il y a les écouteurs, là. Mais dans ma Bible, allez, il faut augmenter le son maintenant. D'accord ? Il faut augmenter le son, parce qu'il dit ici, Jésus s'écria. C'est une autre tonalité. Et c'est rare dans la Bible qu'il dit que Jésus crie quelque chose. Peut-être que c'est la seule fois. Oh, bon, sur la croix, il crie, mais ici, en enseignant, il se lève, il dit, bam, bah. C'est une vraie proclamation, et donc c'est important. Et qu'est-ce qu'il dit ? Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria. Si quelqu'un a soif, si, vous avez soif, vous me voulez ou vous me tuez ? Mais est-ce que vous avez soif de moi ? Qui a soif de moi ? Qui a soif de moi ? Qui a soif de leur Messie ? Qui a soif ? Et je pense qu'il crie ça aujourd'hui devant toutes nos églises dans le monde entier. Il dit, mais qui a soif ? Qui a soif ? Est-ce que vous voulez juste une religion d'État avec les heureux élus qui sont là ? Bon, j'ai vu la reine hein, à Saint-Paul. Et bon, c'est bien qu'on a toujours une fête, mais pff, quand j'ai vu tous ceux qui ont mis leur derrière sur les chaises, quelle hypocrisie ! Mais quelle hypocrisie ! Et après, on parle de tout sauf Jésus, quelquefois, dans ces églises. Et, donc, c'est Jésus, il est confronté à ça, il est confronté aux pharisiens. Et lui, quelle horreur, hein, verset 28, Il parle de Dieu, il dit, vous ne le connaissez pas. Mais il parle aux pharisiens qui organisent cette grande fête. Il dit, vous ne le connaissez pas. Non, c'est pour ça qu'il veut le tuer, parce qu'il dérange. Il dérange. Et là, il dit, d'accord, je vais vraiment casser tout. Il se lève, il crie, et il dit, c'est très clair. Allez, paf. Si vous avez soif, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Qu'il vienne à moi. Pas qu'il aille acheter un bon bouteille de l'effet, pas qu'il aille aller passer sa vie devant un écran qui a une quête d'argent, qui a une quête de pouvoir, qui a une quête de reconnaissance parce qu'il est tout blessé et tout ça. Non, il ne fait pas la psychologie. Il ne fait pas tous les remèdes New Age. Il ne fait rien comme ça. Il dit, il faut venir à moi, Jésus. Moi, Jésus. Celui qui a soif, il faut qu'il vienne à moi. Est-ce que ton âme a soif? Il faut venir à Jésus. Mais il ne faut pas juste venir à moi. Il faut boire. Qu'il vienne à moi et activement qu'il m'avale et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas été glorifié. Alléluia. Donc tout est là, n'est-ce pas? Tout est là. Et bon, je vous donne deux autres versets vite fait. Jean 4, 13 et 14. C'est quand il parle à la femme samaritaine. Jean 4, 13 et 14. Jésus lui répondait, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Voilà, il parle de l'eau naturelle. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et donc l'eau que Jésus vous donne, sa présence et sa mission vous satisfait. Ça vous satisfait. Ça, t'as soif de continuer de boire, mais ah, ça fait du bien. Même mieux que Monkey Shoulder. C'est même mieux. Et oh, c'est sa présence nous satisfait. Jésus nous satisfait. Il y a trop d'insatisfaction dans la vie. Il y a trop d'insatisfaction dans nos corps, dans nos âmes, dans nos esprits. Trop d'insatisfaction. Et l'insatisfaction nous pousse à agir selon la chair. D'accord? L'insatisfaction, même l'insatisfaction dans l'Église, l'insatisfaction dans l'œuvre de Dieu, pousse aux œuvres de la chair. Mais la satisfaction avec Jésus pousse aux œuvres spirituelles. Parce que tu n'es pas en train de faire une œuvre pour exister, parce que tu existes déjà. Mais tu es en train de faire une œuvre pour glorifier Dieu. Et il y a toute la différence là. Et ça enlève beaucoup de stress quand on travaille et on but, quoi. Et on but et en étant satisfait. On fait pas le... Parce que même la mission pour moi, même si je ne sauve aucune autre âme de ma vie, je suis satisfait. Mais j'aimerais bien que les âmes soient sauvées parce que ça va glorifier Dieu. Mais je ne sauve pas des âmes pour justifier mon existence. Et c'est important que je dise ça parce que je vois tant d'œuvres qui sont basées comme une sorte de concurrence. C'est un peu imprégné de l'esprit américain où il y a beaucoup, voilà, je suis plus grand que toi, j'ai une meilleure église que toi et ça nous, ça met une fausse pression. Mais Jésus est 100% satisfaisant, 100% satisfaisant quand nous passons du temps avec lui. Allez, encore Jean 6, 34, c'est un peu ce que Jésus disait avant cette fête. Jean 6, 34, 35, pardon, Jean 6, 35. Jésus leur dit, « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Et ce que nous buvons, c'est Jésus. D'accord? Je sais qu'il parle du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, c'est qui? C'est Jésus. D'accord? C'est pas une force zen, sérénité, spiritualité, son visage. Non, le Saint-Esprit a un visage. Il s'appelle le Saint-Esprit parce que bon, il n'est pas en chair et en os comme Jésus était en chair et en os, parole et tout ça. Non, il est Jésus, mais en moi. Il est Jésus qui devient une femme, alléluia. Jésus qui devient un noir, Jésus qui devient chinois, c'est super. Jésus tout d'un coup, Jésus dans son église, Saint-Esprit. Mais ce que Jésus il dit, il faut boire moi en toi, il faut boire. Et ça vous donne une réalité et ça vous donne un sens. Et donc Jésus est notre boisson qui satisfait. Et donc, voilà, juste une autre chose, peut-être là. Est-ce que ça marche, la pendule, hein? ça semble moins... C'est juste... Ça va. Parce que ça semble, je ne sais pas si j'étais bloqué dans le temps, ça semble être toujours moins le quart depuis 10 minutes. Non, c'est bien. Peut-être le temps s'arrête quand je prêche, c'est bien. Et donc, juste deux choses, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils pensent qu'être chrétien, c'est de croire ou faire. Ouais, donc, tu vas dans l'école de dimanche, où quelqu'un va te donner un traité, et avec la tête, tu dis, ah, il est mort sur une croix, il est ressuscité, alléluia. Ah, d'accord, ouais, t'es chrétien. Ou tu as une culture chrétienne, où tu comprends ces faits avec la tête, là. Et donc, moi, je ne suis pas contre les apologétiques. Hein. Il faut la raison, l'intelligence. Il faut pouvoir montrer que voilà, les choses, l'archéologie, tout ça, les faits. Bon, mais ce n'est pas là où ça commence. La foi ne commence pas là. On n'est pas chrétien parce qu'on connaît des choses. On connaît des faits. Je ne suis pas contre, mais ça ne commence pas là. Là, tu es chrétien parce que tu viens et tu bois. C'est le signe d'être chrétien. C'est d'avoir l'expérience de venir à Jésus. Ça veut dire que tu as une relation vraiment avec lui. Tu viens à lui. Ça veut dire les temps dans ta journée, qui ne sont pas juste dimanche matin, où tu viens à Jésus. Où tu viens à lui et tu ouvres la bouche de ton âme et tu bois. Ça semble être tellement bête, mais il y a tellement de gens qui n'ont que des faits ou des traditions et ils n'ont pas l'expérience de boire. Et c'est simple. Mais Jésus dit, il dit qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent, celui qui croit. C'est ça la foi. La foi, c'est pas une théorie, c'est pas une propagande. C'est une expérience de venir et de boire. Et on construit notre foi. Ce n'est pas en 1966, j'ai cru. D'accord, merci. Mais je viens toujours à Jésus. Je garde ma foi. Ce n'est pas parce qu'une fois j'ai compris. Oui, merci, j'ai compris. Mais la foi se maintient aussi par une visite, par des relations régulières avec Jésus et cette action de boire. Et c'est pour ça une bonne raison de venir dimanche matin et de boire avec la louange et de boire avec la communion fraternelle, de boire avec la Sainte Cène et de boire avec le message. C'est une manière, mais tu peux aussi boire un peu de nature. Jésus se révèle dans des moments, dans la vie actuelle, au bureau, dans toutes les... On peut toujours ouvrir la bouche et boire, et dans la parole, bien sûr. Cette parole quotidienne. Et donc, venir plus boire égale salut. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Je parlerai de l'Écriture tout à l'heure, mais il dit cela de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et donc voilà, l'Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Et donc le Jésus que tu reçois, voilà, peut-être je ne veux pas choquer les gens maintenant, hein, si vous êtes choqués, je suis désolé, mais c'est juste que c'est une parole, si je vous laisse ça, vous pouvez poser ça si j'ai raison, non, Mais l'autre jour, je pensais à ça. Et j'ai dit, mais est-ce que quand je reçois le Saint-Esprit, je reçois Jésus? Est-ce que je reçois un Jésus attaché? Tu vois? Je reçois Jésus attaché. Attaché à la croix pour moi. Attaché. Tu vois? Et il est frustré, là. Et j'ai perpétuellement ce Jésus crucifié, attaché en moi. Donc ça me rend passif parce qu'il ne peut pas bouger. Et parce qu'il n'est pas encore glorifié là. Et les disciples ont vu Jésus glorifié. Et Jean l'apôtre sur Patmos, ils ont vu Jésus glorifié. Les prophètes de l'Ancien Testament, ils ont vu Jésus glorifié. Et donc le Saint-Esprit ne te colle pas un Jésus attaché, mais il te donne un Jésus glorifié. Il ne te donne pas un Jésus de souffrance et de défaite, un Jésus tout blême. Et je dis ça parce que dans toutes les églises catholiques que je visite, Jésus reste vachement attaché. Il est vraiment attaché. Et j'ai envie de le libérer. Et je lui dis, mais Jésus, tu es glorifié. Tu n'es pas attaché, tu es glorifié. Il a été attaché, mais ça a duré 6 heures. 6 heures d'attachement. Mais en disant ça, j'enlève pas ses blessures. Je ne suis pas en train de dire il n'a pas payé le prix dans ce moment-là. Mais vous savez, les blessures de Jésus ne sont pas attachées ni confinées. Les blessures de Jésus sont propulsées. Et je pense qu'il y a quelque chose quand nous recevons Jésus, nous recevons la propulsion, pas l'attachement. Mais nous recevons la propulsion de la grâce. Nous recevons la propulsion de ces blessures de grâce qui sont là pour dire « Je te guéris, je te pardonne ». Et les mains de Jésus là, c'est vrai, toujours remplies de blessures de grâce. Le prix payé, oui, mais en action dans le monde, en action. Jésus, il a montré ses blessures à ses disciples. Ils ne sont pas venus, oh Jésus, à la croix. Non, il était avec eux, en train de manger. Et Jean, il a vu au cœur du trône un agneau immolé. Les blessures sont là, mais il n'est pas attaché, il est libéré. Et donc vous recevrez un Saint-Esprit de Jésus glorifié, un ressuscité qui porte des blessures de guérison pour le monde. Un ressuscité glorifié qui porte les blessures, mais par ses meurtrissures nous sommes guéris. Et si moi je dois faire pèlerinage à Lourdes pour me prosterner devant une croix pour être guéri, c'est moi qui bouge tout le temps. Si je dois aller uniquement dans une église pour me prosterner devant un Jésus tout blême et vaincu, mais si l'église est habitée par ce Jésus propulsé dans le monde, c'est nous qui apportons la guérison aux gens trop fatigués pour venir à une église, aux gens qui en ont marre de la religion. Ils peuvent venir, voilà, il y a Jésus glorifié en moi, et les fleuves d'eau vive couleront de son sein avec un Jésus propulsé dans le monde. Et donc vous recevez un esprit de propulsion. On voit ça le jour de Pentecôte. Ils sont propulsés, parce qu'ils ont un esprit de Jésus glorifié. Ils n'ont pas reçu à ce moment parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Et quand Jésus est sur la croix, oui, il est glorifié dans ce sacrifice. Mais c'est la résurrection de Jésus qui le glorifie et son ascension. Et il règne pour toujours, victorieux, rempli de lumière. Tu peux même pas regarder face à face parce que son visage brille, et il doit quand même encore plus que Moïse mettre une petite couverture quand les gens ont une vision de Jésus, sinon tu meurs. Et il est Dieu glorifié. Et là, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois Jésus glorifié en toi, une partie de cette gloire, et t'es pas attaché mais t'es propulsé dans le monde. Et celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Allez, 5 minutes pour dire toute l'Écriture attachée à ce passage. Et donc, Tu sais, la première chose à dire, c'est les Juifs traditionnellement, Sukkot, je ne sais pas s'ils le font toujours, mais à l'époque, ils lisaient Ésaïe 12, 3 en versant l'eau. Et donc, quand tu dis, tu lis Ésaïe 12, 3, non, pardon, Ésaïe, ouais, 12, 3, tu as ce verset. Vous puiserez de l'eau avec allégresse aux sources du salut. Et donc, honnêtement, quand votre âme boit Jésus, vous buvez la joie, même au cœur de la tristesse, même au cœur de cette vie difficile. Je bois au milieu de la nuit à 4 heures du mat. Et même si je pleure, il y a quand même la joie dans la présence de Jésus. Et Jésus dit, voilà, vous êtes en train de verser de l'eau devant le temple, mais moi je suis cette eau. Et bois, bois mon eau, vous aurez la vraie joie. Il y a un autre verset que j'aime bien, Ésaïe 58, 11. Ah, l'Éternel te guidera constamment, il te rassasiera dans les lieux arides et redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme un point d'eau dont les eaux ne déçoivent pas. Voilà, ce matin, je veux vous dire que vous avez le potentiel d'être un jardin arrosé. Un jardin arrosé avec les fruits de l'amour, avec une multiplication de tomates. Ah Seigneur, fais de moi un jardin arrosé. Et je suis arrosé parce que je bois, mon âme boit, je suis arrosé. Et je deviens, ma vie devient comme un jardin arrosé. Et juste pour terminer avec un petit avertissement, Jérémie 2:13. Ah, j'étais choqué quand j'ai lu ça, j'ai dit, oh Seigneur, ça ne m'arrive pas. Il parle contre son peuple et c'est Jérémie souvent, il te dit les quatre vérités, mais bon, j'ai dit quand même beaucoup de pour boire à Jésus, mais c'est, qu'est-ce qu'il dit? Si quelqu'un a soif de moi, donc est-ce que vous avez soif? Mais est-ce que j'ai soif de Jésus? Mais ici il dit Jérémie 2:13, car mon peuple a doublement mal agi. Donc comment ne pas mal agir? Il ne faut pas faire ce que Jérémie dit ici. Ils m'ont abandonné, moi la source d'eau vive. C'est ça. Mais la première chose qu'ils ont fait, ils ont abandonné la source d'eau vive. Et on sait ce que c'est, de passer des moments de sécheresse, mais il ne faut pas le faire. Il ne faut pas abandonner la source. Venez à Jésus, il faut boire, même si tu es sale, même si tu dis je ne mérite pas, mais non, mais venez à moi, il y a toujours cette grâce. Mais il ne faut pas être exclu, il ne faut pas te trouver quelque part sans eau ou avec autre chose. Mais qu'est-ce que c'est cette autre chose? Parce que l'âme n'est jamais sans eau, parce que c'est fondamental, tu ne peux pas exister sans boire. Mais qu'est-ce que vous allez boire? Et donc, la première erreur, c'était d'abandonner l'eau vive, l'eau qui donne la vie. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, la deuxième erreur? Pour se creuser des citernes crévassées qui ne retiennent pas de l'eau. Et c'est ce que le monde fait autour de nous. Les gens, ils vont creuser n'importe quelle citerne au lieu d'aller boire chez Jésus. Et il ne faut pas que l'Église fasse ça. Il ne faut pas qu'on ait d'autres sources. Bon, on est humanitaire, on est gentil, on est da-da-da-da. Bon, je ne suis pas contre aider, être gentil et tout ça. Mais Jésus, le centre, Jésus, l'eau vive. Jésus est le centre. On ne peut pas abandonner Jésus. Je vois les églises de l'État en Angleterre. On est en train d'aller vers toutes sortes de choses. Et encore, je ne suis pas contre ces choses. Mais si tu n'as que de l'écologie, si tu n'as que la diversité, si on n'a que les bonnes œuvres, là tu as passé à côté de la source de la vie. Il n'y a plus une expérience de boire, il n'y a que l'humanisme. Et là c'est des citernes crevassées et qui ne retiennent pas de l'eau. Et là, ça ne va pas satisfaire. Et donc, si vous avez des citernes, si vous avez creusé votre petite mauvaise habitude quelque part, si vous avez creusé votre petit moment de satisfaction en dehors de Jésus, si vous avez creusé quelque chose, non, je ne vais plus boire à cette citerne, ça peut m'empoisonner. Si on a cultivé une petite citerne d'amertume, ça c'est le pire, pitié de soi, amertume. Oh mon ami, là la satisfaction va être vraiment loin. Allez, casse tout ça. Viens Jésus, il te guérit. Il te guérit. Bien sûr, il y a les blessures dans le Saint-Esprit. Il y a les blessures, il y a le pardon, il y a la grâce, tout ça. Et il ouvre en toi une source d'eau vive. Tu as une source, tu peux toujours boire là. Pourquoi aller vers une autre citerne? Et donc, nous, on n'est pas ceux qui vont vers d'autres citernes. On est ceux comme en Ézéchiel 47, je pense que c'était un autre verset, où l'eau coulait du temple. Ils étaient aux chevilles et après aux genoux. Vous êtes où? Quand vous... Ah, il faut être gourmand, hein, il ne faut pas juste dire un petit peu, juste aux chevilles, jusqu'aux genoux, jusqu'aux reins. Et après, Ézéchiel, il nageait dedans. Et donc, j'aimerais terminer avec cette image de nager. Là, quand tu as soif au milieu de la nuit, ah, j'ai soif, mais j'ai soif spirituelle. Et là, tu dis, je bois, et tout d'un coup, il ouvre en toi et tu es en train de nager dans ton lit. Dans l'amour de Dieu. Oh Seigneur, oh, 3 heures sont passées, c'est déjà le matin, je dois me réveiller. Waouh, c'est de nager dans la présence de l'amour. Et on dit, oh, il ne faut pas exagérer. Non, il ne faut pas exagérer, mais ça c'était déjà l'Ancien Testament, des images données. Et c'est encore plus maintenant Jésus. Jésus nous donne l'opportunité de venir à lui, de boire et de nager dans toute la vitalité et le bonheur et le sens et sa présence et la mission qui va couler de notre sein quand nous sommes avec lui. Et on peut nager ensemble, toute une église à la piscine, en train de jouer, en train de... Paf, on est rafraîchi avec Jésus. Allez, que Dieu nous bénisse. Seigneur, merci, nous voulons venir à toi et nous voulons boire ce matin. Seigneur, nous voulons boire tout le temps. Nous voulons vraiment cultiver ta présence en nous et surtout cultiver cette mission aussi, que tu nous donnes un sens, qu'on soit pris dans ces courants d'eau vive, que ça sorte de nous et que ça soit vraiment 100% ta grâce, 100% ton œuvre en nous, Seigneur. Oh, merci. Merci, Jésus. Merci. Fais de moi un jardin arrosé. Au nom de Jésus. Amen.
Amen.